chronique Nouvelle d'Europe sur Radio PFM 99.9, chronique un petit peu spéciale aujourd'hui puisque c'est les 10 ans de cette chronique. On reçoit comme d'habitude François Vier, donc chroniqueur pour Nouvelle d'Europe et président du mouvement européen Pas-de-Calais. Bonjour François.
Bonjour.
Et on a aussi dans le studio de PFM Jean, animateur de l'émission Tumulte, un magazine dans lequel il est régulièrement question d'actualité de l'Union européenne. Salut Jean.
Salut.
On va revenir sur 10 ans de chronique avec une discussion autour de l'Union européenne, de l'information aussi autour de l'Union européenne. Cette chronique Nouvelle d'Europe, c'est né au moment du débat sur le traité européen. Alors, est-ce que François, tu peux nous raconter un peu comment tu es arrivé à PFM et pourquoi ?
Évidemment, le souvenir du traité constitutionnel de 2005 est un épisode important et d'ailleurs assez difficile pour un pro-européen. À cette époque-là, moi, j'ai milité pour le oui et j'ai fait, je crois, une demi-douzaine d'émissions d'ailleurs à ce micro pour défendre le oui à l'époque. Donc, il y avait à Radio PFM d'autres opinions, bien sûr, Jean le dira. Et surtout, à la suite du vote, hein, c'était un coup de massue quand même pour les pro-européens, donc j'avais le sentiment qu'il fallait entretenir le débat sur ces questions européennes, informer, et donc le but des chroniques de l'Union européenne, c'était d'apporter avant tout une information.
Avant que François Vier intervienne sur Radio PFM, il y avait beaucoup de gens qui étaient pour le non à ce traité constitutionnel européen sur Radio PFM.
Oh bah, je pense que pas mal de gens avaient cette sensibilité du non. Maintenant, c'était pas non plus dans la manière de traiter les questions en termes de j'exprime ma position pour le non ou j'exprime ma position pour le oui. C'était plus une réflexion générale sur le traité et donner des éléments aux auditeurs. Maintenant, c'est vrai qu'on fait avec une certaine sensibilité. Et c'est vrai que, par exemple, dans Tumulte, on avait une sensibilité pro-européenne. Puisque les partisans du oui se réclament d'être pro-européens, ce qui semblerait indiquer que ceux qui étaient partisans du non ne l'étaient pas. On peut avoir une sensibilité pro-européenne et être pour le non.
Après le référendum, après le non qui a été donc décidé par les électeurs français, donc tu as souhaité, comme tu as dit François, continuer cette chronique. L'information sur l'Union européenne, c'est une information qui est peu présente sur les médias mainstream, les médias locaux aussi.
Bon, il y a des émissions radio, il y a des émissions télévision, etc., qui sont assez nombreuses, hein, sur RFI, sur France Info, sur France Inter. France 2, Arte, France 24, TV5 Monde, enfin je ne vais pas faire la liste des émissions, elles sont assez nombreuses, mais bon, le problème c'est qu'elles sont en général à des heures de faible écoute, hein. Et puis la façon dont on traite l'Union européenne dans les bulletins d'information, hein, de grande écoute, le JT, etc., bah souvent est assez faible, c'est-à-dire qu'on joue sur l'émotionnel, etc., mais on n'apporte pas une information sur les questions de fond, et des questions de fond qui jouent beaucoup sur notre vie quotidienne. Alors, pour être informé, tout de même, une information pratique, moi ce que je recommanderais, c'est 4 sites internet qui sont très très accessibles. Le site Toute l'Europe, où il y a des dossiers de presse, où il y a une information sur l'actualité. Euractiv, même chose. Et puis les sites de deux think tanks, un think tank de droite, la Fondation Schuman, et un think tank de gauche, Notre Europe, Institut Jacques Delors.
Jean, sur le traitement de l'actualité de l'Union européenne sur les médias de manière générale.
Bon, déjà, je voudrais rappeler que sur Radio PFM, cette information sur l'Union européenne a été relativement constante. Hein. Il y a quelques années, on diffusait une rubrique qui s'appelait « En direct du Parlement européen », une rubrique qui a été réalisée par nos amis de Fréquence Libre. et c'était autour de sujets en débat au Parlement européen avec des interviews des différents députés européens. Alors sur le traitement médiatique d'une manière générale, oui, c'est assez faible, mais c'est en même temps à la mesure aussi du fossé qu'on peut certainement signifier entre les populations et cette construction-là européenne. Je crois que c'est les deux sont liés. Et le moment, par exemple, du traité constitutionnel et du référendum a été un moment très particulier parce que il y avait cette idée que les gens étaient mal informés, etc. Or, ce qu'on a vu, c'est que les gens se sont massivement emparés du sujet. À partir du moment où on les a consultés, qu'il y a eu un référendum, les partisans du non ont fait de multiples ateliers, écoles, lectures, et on s'est aperçu qu'en fait, les gens maîtrisaient largement la lecture du traité et que la population s'est emparée de ce débat. Malheureusement, bon, il faut rappeler, c'est qu'il y a eu un non majoritaire. Et ce qu'on fait ensuite les élites, on va dire comme ça, mais il faut mettre des guillemets bien sûr, c'est de ne pas en tenir compte. Ils se sont dépêchés de refaire passer la chose autrement par le biais du Parlement. Et dans des tas de pays, on a vu aussi les gens, on les a fait revoter jusqu'à temps qu'ils disent oui, quoi, hein. Bon, ce qui montre un peu le caractère non démocratique de cette construction. J'aurais rajouté une chose. Bon, excusez-moi, je suis peut-être un peu long, donc... c'est qu'il y a beaucoup de confusion sur les termes, je trouve. On dit Europe. L'Europe, de quoi on parle quand on dit Europe? Il y a des pays qui sont dans l'Union européenne, il y a des pays qui n'y sont pas et qui sont européens. Il y a des pays dans l'Union européenne qui sont dans la zone euro, d'autres qui n'y sont pas. Ensuite, donc il y a souvent une confusion qui est faite entre l'institution et puis l'Europe, l'Europe elle-même qui est une donnée, à mon avis, qui est plus de fond.
François Avier, tu voulais réagir.
Ben moi, je veux pas refaire le débat du traité constitutionnel, hein, mais il faudrait quand même. C'est vrai qu'il y a eu une frange, surtout à gauche, qui s'est beaucoup mobilisée, qui a regardé les textes de près, etc., etc. Juste. Mais une majorité, ça, les sondages à l'époque le montrent, et la majorité des citoyens se sont déterminés non pas sur les sujets européens, mais sur les sujets nationaux. Donc, je veux dire, on peut pas dire qu'il y ait une véritable appropriation du débat par les citoyens. Sur les conséquences du non, je comptais en parler un peu plus tard, hein, mais elles ont été à la fois négatives et positives. C'est-à-dire que le traité de Lisbonne, tel qu'il a été adopté, il a été adopté par une voie d'approbation parlementaire en France, qui a créé de gros dégâts, je dirais, dans l'opinion, parce qu'effectivement, les gens ont eu l'impression qu'ils votaient non et qu'ensuite on refaisait adopter le texte dans leur dos. Ça, c'est vrai. Donc ça, c'était extrêmement, je dirais, négatif vis-à-vis de l'opinion, vis-à-vis de la cause européenne que je défends. Mais d'un autre côté, il faut quand même regarder les choses. Le traité de Lisbonne, il a permis quoi? Il a permis des avancées démocratiques. Il a permis des avancées concernant le pouvoir du Parlement européen, il a permis des avancées concernant les compétences de l'Union européenne, il a permis que le président de la Commission européenne soit élu au second degré, mais élu tout de même. Donc je dirais que le traité de Lisbonne, c'est vrai, il a été adopté dans des conditions contestables, mais il a eu des effets quand même positifs globalement. Ensuite, sur la question de la légitimité, on retrouve ce sujet au niveau de la question grecque en ce moment. Quand Tsipras dit « j'ai été élu pour contester, je dirais, les plans de restriction européens », c'est vrai, c'est vrai. Mais il est arrivé fort de ce mandat, je dirais, au milieu de l'Assemblée des chefs d'État, hein, en disant « j'ai été élu pour un objet précis ». Mais les autres chefs d'État sont aussi légitimes que lui, et ils ont été élus aussi par leur population et sur d'autres objectifs. Donc attention, je dirais, à cette idée que parce qu'on est élu au suffrage universel, on a de toute façon raison.
Jean ?
Oui, juste une petite réaction quand même sur la Grèce. Bon, il y a un débat de fond. Mais je voudrais simplement noter que l'Union européenne impose normalement aux pays endettés, qui ont une dette publique, de faire un audit de la dette publique. Or, le seul pays qui l'a fait, hein, ça c'est une obligation depuis 2013, le seul pays qui l'a fait, c'est la Grèce, qui a mené cette commission d'enquête et qui a bien décortiqué la chose et qui a bien montré que une grande partie de cette dette est illégale parce que, par exemple, pour le FMI, la destination des fonds du FMI doit être subordonnée au fait que les pays puissent rembourser. Or, le FMI savait parfaitement que c'était impossible. Il y a même des documents qui montrent que le FMI avait parfaitement conscience que le régime de rigueur et d'austérité qui était imposé à la Grèce allait creuser la dette. Donc, dire le Tsipras a été élu avec un mandat dans un cadre qui est contraint et qui serait lui aussi légitime ou légal, c'est contestable. C'est tout à fait contestable.